Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver en direct en ce vendredi. Et aujourd'hui dans Dialectique, nous allons parler d'art avec Marianne Thibault, qu'on a déjà reçue ici, qui est artiste plasticienne formée à l'ENSA de Nancy, qui fait aussi de l'écriture, de la micro-édition. Comment ça va Marianne ?
Super, merci Lionel.
Merci d'avoir accepté notre invitation. T'es venue de Paris, hein,
oui,
c'est ça hein.
Directement.
Pas trop jet-lagué.
À fond, propulsé.
Décalage horaire et atmosphérique entre
ouais,
Nancy et Paris.
Ouais.
Merci d'être là en tout cas.
Merci.
Il y a aussi Maxime Magnin qui est artiste, illustrateur, professeur d'illustration, qui est dans la fabrication de jeux vidéo et qui est issu de l'ENSA de Nancy.
Oui.
C'est bien ça. Hein.
Oui.
Est-ce que la présentation est bonne?
Oui, c'est ça.
Très bien. Et enfin, Mathilde Gérard, qui est artiste plasticienne, ici aussi de l'ENSA de Nancy, de l'école offshore à Shanghai, et actuellement en études scénographiques en théâtre à Lausanne.
Exactement.
Bienvenue à tous les deux à RCN. C'est la première fois qu'on vous reçoit et c'est un plaisir de vous avoir.
Merci
beaucoup.
Alors, j'ai lu un peu ce que vous faites. Déjà, on va parler de votre actualité, on va parler de ce que vous réalisez. Vous êtes beaucoup en ce moment sur la micro-édition. On va en parler. On va diffuser même des extraits aussi de ce que vous faites dans l'émission. Mais d'abord, il y a Contrepente. Alors, c'est quoi Contrepente et c'est quoi l'importance de cette organisation dans votre vie artistique, Marianne ?
Alors, ouais, j'ai décidé de venir effectivement avec Mathilde et Maxime aujourd'hui. Alors, on n'est pas au complet. Contrepente, c'est 6 personnes qui tiennent un lieu artistique. On est en train de l'ouvrir dans les Vosges, près de la charmante ville de Plombières-les-Bains. Et donc, c'est un ancien hôtel qu'on est en train de reconvertir en lieu de vie. Où on aimerait organiser des événements, peut-être des résidences d'artistes. Il y aura un atelier qui va servir, enfin une annexe qui va servir d'atelier. Donc voilà, il y a plein de possibilités. C'est encore en cours, on est en train de le lancer, mais on aime beaucoup en parler. Ça prend aussi une part de nos vies à tous et toutes. Donc voilà, je pense que c'était la peine de venir en tant que collectif.
Donc voilà, c'est toi qui as initié le projet.
Non, c'est plutôt... En fait, si je devais désigner vraiment plutôt un moteur, j'aurais tendance à me tourner vers Mathilde, parce que... bien sûr, ça reste très horizontal, tout ça, mais voilà. Enfin, moi, je dis ça plutôt sous forme de remerciement, parce que c'est la personne vraiment qui a fait lien, je pense, entre tout le monde, qui a donné énormément d'énergie, qui s'est beaucoup investi dans ce projet-là. Et voilà, donc ça me paraissait tout à fait légitime, et je pense qu'elle est même plus à même que moi d'en parler.
Bah, Mathilde, justement, alors, c'est quoi l'objectif de cette réunion d'artistes, ce collectif ? Vous êtes réunis sous forme associative, sous une autre forme peut-être ? Comment vous comptez opérer ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
D'abord, merci Marianne, c'est un joli compliment. Et puis, ce qui a été très chouette dans ce projet, c'est que le passage de relais s'est fait facilement et continue à se faire depuis que ça a commencé. Alors, c'est, comme Marianne l'a dit, c'est un projet qui réunit 6 personnes. Et on avait un cahier des charges très, très dense parce qu'on voulait d'abord en faire premièrement un lieu de vie. Du coup avec des attentes différentes pour les 6 personnes à des moments de l'année différents, que ce soit du plein temps à 6 mois par-ci, 2 jours par-là, à tous les week-ends. Enfin vraiment, c'est des calendriers qui ont des modalités très différentes et puis des attentes aussi en termes de vie artistique et professionnelle super différentes. Dans l'équipe, il y a des gens qui sont passionnés de jardin, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui sont... une personne en particulier qui est en train de monter sa petite entreprise de métallerie. On a une métallière dans l'équipe qui n'est pas intéressée par la micro-édition, mais qui va nous faire un super atelier métal.
On peut dire son nom, hein, si elle nous écoute, comme ça on lui passe le bonjour. Alors, je sais qu'il y a Gilles Zinc, c'est ça, qui est musicien.
Exactement.
Et plasticien, qui est aussi de l'ENSAD. Et Simon Falquet.
Exactement.
Écrivain, historien
c'est
de
ça.
L'art, voilà, qu'on salue.
On les salue tous, toutes bien fort. Je rebondis justement sur Gilles Zinc, qui est comme nous, plasticien, mais qui lui va apporter quelque chose que nous, on n'a pas, à savoir toute son expertise en termes d'organisation de concerts et d'événements, et qui va être d'une efficacité redoutable par rapport à ça. On a Simon Falquet dans l'équipe aussi, qui a une pratique très tournée vers l'écriture et déjà beaucoup d'expérience dans le milieu associatif. Mmh. Événementiel. Donc voilà, en fait, ce lieu-là, c'est une manière de faire un peu une cuisine déjà entre nous et ensuite d'avoir un endroit pour recevoir d'autres artistes ou artisans, artisanes, pour faire des choses ensemble qui soient vraiment intégrées à ce territoire-là qu'on aime beaucoup. Enfin, c'est une ville très, très particulière, Plombières-les-Bains, qui est vraiment chargée de plusieurs couches d'histoire et puis voilà, qui nous permettent de faire une sorte de point de rencontre comme ça.
Et donc c'est protéiforme alors sur les artistes qui vont venir, comme tu disais, il peut y avoir des artisans, des plasticiens, des écrivains, des musiciens, c'est très large au final.
Exactement, et donc Maxime à ma droite est plutôt sur des nouveaux médias comme le jeu vidéo, etc. Et puis l'idée ce serait vraiment de pouvoir organiser des choses qui vont de la bourse aux graines à la convention de fabrication de jeux, en fait. Enfin, voilà, de pouvoir vraiment taper très, très large et puis avoir un très bel outil, quoi. Hein, et du coup, qui passe vraiment par le vivre ensemble.
Alors, ma question va être peut-être naïve, mais quelle était la nécessité, justement, d'ouvrir, de se lancer dans un tel projet? Parce qu'on se dit, c'est colossal, vous avez vos vies d'artiste, c'est peut-être même un peu fou, un peu grand. Pourquoi, en fait, s'être lancé dans cette aventure?
Parce que c'est super de toute manière, ces vies d'artistes là, elles nous demandent à tous et toutes énormément d'énergie qu'on dépense pas de la même manière, mais ce qui est certain, c'est qu'on dépense beaucoup d'énergie là-dedans, et que c'est super de mettre cette énergie là ensemble au même endroit et que enfin ça ancre quelque chose, je crois en tout cas, et puis ça permet de se passer les choses plus facilement, de se retrouver, d'avoir enfin le pied quelque part. On sait ce qui nous attend et ce qu'on va pouvoir fabriquer ensemble, toujours.
Donc un lieu d'attache qui symbolise un peu votre union et votre synergie en tant qu'artiste, quoi, au final.
Ouais, on peut dire ça, je pense. Je ne sais pas ce que Marianne et Maxime en pensent.
Maxime
Il y a aussi une question d'indépendance, je pense. Tu parlais d'énergie dépensée tout à l'heure. Je crois qu'on dépense beaucoup d'énergie à contacter des gens, trouver des gens, essayer de... Ça prend beaucoup d'énergie, donc si c'est nous-mêmes qui initions des mouvements, des événements, etc., ou on a lieu qui y est à nous, on n'a pas à se poser la question de si c'est validé ou non, en fait. Enfin voilà, en tout cas, il y avait ce sens-là aussi.
Ouais, c'est ce sens de l'indépendance, ce que tu dis, ça fait une parfaite transition avec ma question d'après. C'est sur cette réflexion autour des pratiques collectives et de la micro-édition. Ça aussi, c'est quelque chose qui est ancré dans votre ADN, j'ai envie de dire. Et pourquoi ce choix-là, Marianne?
Alors, on parle de micro-édition.
Alors, qu'est-ce que c'est déjà, pour les auditeurs?
Un cadre, voilà, la définition. On parle aussi de fanzine ou de zine ou d'édition d'artiste. Donc, c'est des termes qui se chevauchent un petit peu, qui n'ont pas les mêmes origines, les mêmes histoires, les mêmes appartenances. Quand on parle de fanzine, ça va se référer un petit peu plus à quelque chose de punk, qui va être fait avec des moyens les plus bas possibles, etc. Édition d'artiste, tout de suite, ça fait plus penser à quelque chose de très soigné, avec une pratique artisanale, un grand soin qui est apporté à l'objet. Et puis, finalement, il y a vraiment un glissement sémantique qui est en train de se faire. Puis je pense que vu qu'il y a une mutation, le monde éditorial, aujourd'hui, il paraît difficilement accessible, en fait, quand on a vraiment une pratique indépendante. On n'a pas forcément, en tant qu'artiste, envie de faire des compromis déjà sur la mise en page, les typographies, le format, etc. Et puis, on a envie de rapidité aussi, le temps de faire valider, qu'éventuellement il y ait des retouches par une tierce personne, etc. En fait, voilà, il y a un peu une volonté de liberté, de spontanéité, puis de choix tout simplement esthétiques sur ce qu'on fait.
Qu'est-ce que c'est que la micro-édition
On fait les choses nous-mêmes, vraiment, et ça peut recouvrir énormément de réalités différentes, parce que même quand on parle d'édition, finalement, on va penser peut-être plus à un livre, mais ça peut devenir carrément des objets. Enfin, je fais un énorme pas vers une artiste que je connais, qui s'appelle Angèle Douche, par exemple. Donc elle a créé sa propre maison d'édition. En fait, c'est quasiment des petits objets, en fait. Donc ça peut passer du jeu de cartes à une petite boîte. Donc c'est assez vaste, même si dans la plupart du temps, ça se présente plus comme un cahier, un livre qu'on fait nous-mêmes.
Alors c'est ça, en fait, justement, il y a des différences subtiles, hein, entre les fanzines, avec la micro-édition. Pourquoi vous pensez, parce que c'est ce que vous dites, hein, que la micro-édition, elle prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Et comment vous voyez ça? Comment vous jugez ça, vous, en tant qu'artiste?
Moi, je pense qu'on peut, pour compléter ce que dit Marianne et rebondir, on peut aussi parler de la question du multiple en art. Par rapport aussi à ce que disait Maxime, en fait, en termes d'indépendance, d'autonomie, c'est aussi une manière différente que les manières classiques, les manières du marché, les manières institutionnelles de présenter nos travaux et nos recherches. La question du multiple, ça, à la fois, c'est des objets auxquels on apporte énormément de soins, mais à la fois, ça désacralise aussi autre chose par rapport au rapport de circulation de ces objets-là. Et c'est aussi se permettre de produire des choses qu'on va pouvoir soit donner, soit vendre pour des formes modestes, mais qui vont circuler, en fait. Et ça, c'est quelque chose, il me semble, d'assez important dans la manière qu'on a d'envisager nos pratiques.
Il y a aussi tout ce qui est festival de micro-édition. Ça aussi, est-ce que vous pouvez nous en parler pour nos auditeurs, hein, parce qu'il y a peut-être des initiés qui vont nous écouter, mais surtout des personnes qui ne viennent pas du tout de ce monde-là.
C'est clair. Il y a l'Enfer Festival, bien sûr, à Nancy, mais il y en a énormément, en fait. Queerzine Festival qui arrive bientôt à Paris. Deux ou trois slaps aussi. Pareil, c'était à Paris. Le Monstre Festival qui est à Genève, auquel on a participé. Mathilde a participé avec plusieurs d'entre nous. Je pense aussi que c'est une manière de se financer, en fait, tout simplement. Enfin, quand on est en audition, clairement, c'est une autre économie. Bien sûr, on va produire moins, peut-être on va produire plus avec les moyens du bord, mais on va contrôler, en fait, tout le circuit économique qu'il y a autour. Il y a la question de l'ISBN qui se pose de temps en temps, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire répertorier l'édition ou pas. Donc ça, c'est un choix personnel. Ça coûte aussi un petit peu des sous, pas beaucoup, c'est 35 euros, 80 si on est très pressé qu'on a besoin de l'ISBN rapidement. Mais ça peut limiter
ISBN.
Aussi la diffusion.
ISBN, est-ce qu'on peut...
c'est le chiffre qui est attribué, en fait, pour répertorier le livre.
Ok. Très bien. Parce que c'est un peu comme, j'explique un peu aux auditeurs, c'est un peu comme dans la musique aussi.
Clairement, désolé, j'ai même pas noté de quoi c'était les initiales, désolé, mon travail.
Mais en tout cas, on sait que
ça, en gros, il faut le déclarer, il faut l'inscrire dans les registres, et donc voilà, ça va coûter des sous, mais la plupart des gens, quand ils font une auto-édition en tant que livre d'artiste ou quoi, se préoccupent pas forcément de cette question-là. Moi, je sais que récemment, je voulais participer à un festival et on m'a dit non, en fait, c'est pas possible parce que t'as pas d'ISBN, donc en fait, c'est illégal. Et j'ai plusieurs collègues à qui c'est arrivé aussi qu'on vienne leur dire non, mais en fait, ton fanzine là, c'est illégal.
C'est rassurant.
À partir du moment où on cherche à le vendre, il y a la question qui se pose. C'est vraiment un peu borderline. Est-ce qu'on le fait passer un peu sous le manteau à prix libre? Souvent, c'est à prix libre, sans forcément avoir une entreprise répertoriée. Il y en a beaucoup qui créent aussi leur propre petite maison d'édition, soit une seule personne, soit en collectif, pour asseoir un petit peu mieux cette économie-là. Mais ça reste toujours assez précaire. La plupart du temps, ça couvre à peine les frais de production. Donc, c'est une question à quel point est-ce qu'on a envie de s'officialiser ou pas, quoi.
Ça pose vraiment des questions. Et puis, ça vous contraint, en fait, à aller dans des domaines de gestion, tout ça, finalement, en tant qu'artiste, à prendre un peu de hauteur et à développer d'autres compétences.
Quand Marianne parlait de contrôle sur l'objet, il y a autre chose qui est aussi fondamentale pour moi dans la micro-édition, c'est qu'en fait ça nous contraint à apprendre tout un tas de petits hacks techniques. enfin, auquel on n'avait vraiment pas idée, en fait, et a beaucoup improvisé avec les moyens du bord. Et du coup, c'est hyper intéressant dans l'élaboration d'un objet de se retrouver confronté à des détails qui peuvent paraître triviaux, alors qu'en fait, ils ne le sont pas du tout. Enfin, dans ce que c'est qu'un objet qu'on va fabriquer, reproduire, proposer. Enfin, je trouve que c'est une toute autre manière de travailler. Ça, en tout cas, pour moi, ça a du sens.
Pour parler par exemple de Gilles Zink, qui a une pratique éditoriale assez soutenue dans ses boulots. Donc lui, il a pas monté particulièrement de maison d'édition. Perso, il a pas d'ISBN ni rien, mais c'est plus en mode édition d'artiste. Mmh. Et par exemple, dans un de ses ouvrages qui était How to Micronation, c'était un tutoriel pour monter sa propre micronation. Il a relié à la main. Donc il y avait vraiment la question de la reliure qui se posait. Il a utilisé une technique qu'il avait apprise en Lituanie. Et donc, ça donnait une série de petits objets qui étaient particulièrement soignés, bien sûr, en série très très limitée, mais il y avait vraiment un soin qui était accordé à chaque détail, quoi.
Tu parles de l'art en série. Il y a cette question de la série dans l'art qui s'est posée avec un artiste qui s'appelle Jean-Michel Basquiat, et il y a Achaquet qui lui rend hommage dans ce morceau qu'on écoute tout de suite.
To the king of songs and blues. 23, 24, she be a tell them before, me then stop to defend the four. She like, yeah, you won't go, you the ton, be the rubber, my 24. Tell me what to do, I can't do, me and no skid that do. Tell me what to do, I know be and do. Ten bad room, my bad room, we are cut a can do. Tell me small, shut up and do. Walking poetry, I am great, I'm walk over to Gaskia. Now Gaskia, what I love ya. Now one, one, no time for drama. Walking poetry, I am great, I'm walk over. I got scared of what I love, yeah. Now I want no time for drama. Them chapel, them is a bit the commander. Come on, come on the duty. I'm on one, what did you ginger? I'm guilty. That's my swag, the cue. I don't go up you, no, it's hard to swallow the pill. Then I gym, that I him, me, though I kill. Shout out to my space, my mama, and she be my queen. Oh, go, Talubo, Mogo, and the Ugo, don't go. I'm a call, no, the fuck up, oh, loco, oh, moco, only rock, oh, you love my tongue, for your con, yeah. All eyes on me, bitch, it's too party, I'm too bad. You could feel I'm like a loose, too drag. I know the booka, I be booka, never lose, guy, can't catch the way we did do rap. Study me, I know no jungle, I get many pages like some for Solomon. All I know be more. I'm up, you wallet, light, light, till you reach, I'm done now. 23, 24, she be a tell them before, man, I stop to defend the four. She like, yeah, yeah, you won't bum bum, you did turn down, be the bop, I'm a 44. Tell me what to do, I can't do, me, I know skid that do. Tell me what to do, I know fiant do. Ten bad room, my bad room, we are cut up and do. Them small, shut up and do. Walking poetry, I am great, I'm walk over to Gaskia. Now Gaskia, what I love ya. Now one, one, no time for drama. Walking poetry, I am great, I'm walk over to Gaskia. Now Gaskia, what I love ya. Now one, one, no time for drama. El Chapo, Ebony Zahube, the commander. Capon, capo de tutti. I'm on one, what did you ginger? I'm guilty, that's my swag, the cue. I don't go up you, no, it's hard to swallow the pill.
h14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est toujours en direct sur RCN 90.7, on vient d'écouter Achaquet, l'artiste nigérian, avec son morceau Basquiat, donc hommage au très cher Jean-Michel qui fait partie du Club des 27. Et nous on est avec, Club des 27, j'explique, hein, c'est malheureux artiste, voilà, vous avez survécu à ça, tant mieux, voilà, qui ne dépasse pas l'âge des 27 ans malheureusement.
Merci de te présenter comme ça, hein. Salut les vieux.
Ben là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle.
On va voir ça comme ça.
Donc, je rappelle qu'on est avec Marianne Thibault, qui est plasticienne, Maxime Magnin, qui est artiste et illustrateur, professeur d'illustration, et Mathilde Gérard, plasticienne aussi. Donc, c'est vrai que tous les trois, vous êtes issus de l'ENSAD. Qu'est-ce que ça a joué comme rôle, peut-être, dans votre parcours? Vous allez me dire le fait de se réunir aujourd'hui un peu plus loin, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont découlé de ça?
Moi, je vais parler juste pour moi, mais personnellement, ma vision de l'art avant d'entrer en école d'art, c'était j'allais prendre n'importe quel RER pour aller à Paris, à Montmartre, et je voyais les caricaturistes ou les gens qui faisaient des aquarelles de cartes postales pour vendre. Et pour moi, l'art, c'était ça. J'avais jamais mis les pieds ni au Palais de Tokyo, ni à Pompidou, je savais pas ce qui s'y passait, et j'y comprenais rien de toute façon. Donc ça, c'était une énorme bouffée d'air frais et de découverte, en fait, parce que je me suis découverte une curiosité sur tout ce qui s'est passé après le 19e siècle. et comme j'adorais raconter des histoires, que j'avais toujours un grand rapport avec la littérature, puis dans ma tête, c'était comme une espèce d'équation insolvable. Comment je mélange de l'écrit avec quelque chose de visuel, quoi. C'était comme une espèce de d'huile et d'eau que j'arrivais pas à faire se mélanger. Et je crois que cette découverte un peu de l'art conceptuel en particulier, ça m'a permis d'accéder à cette espèce de compromis-là qui me va plutôt bien.
Mathilde, pour toi, l'influence du parcours académique, on rappelle que l'ENSAD, c'est l'école nationale, c'est ça, supérieure d'art,
et de
design.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Marianne parle d'huile et d'eau. Je crois que moi non plus, j'avais pas, spécialement de culture de l'art contemporain ou de l'art conceptuel. Et du coup, c'est vraiment un nouvel horizon qui s'ouvrait. Et puis justement, la possibilité de on a le droit de croiser toutes ces disciplines. Et du coup, pour moi, ça a été un super laboratoire où c'était possible de croiser tous les médias, où c'était possible de mettre en place des pratiques pour travailler avec les autres. Et puis surtout, on avait, c'était quand même un luxe assez inouï d'avoir un endroit où d'autres gens travaille à ça, où on a des ateliers fantastiques et des profs qui sont là pour nous accompagner. Vraiment, c'était des études très, très, très enrichissantes, quoi.
Et Maxime ?
Oui, mais c'est un peu pareil pour moi. J'ai une vision assez naïve de l'art, ou plutôt de la manière de faire les choses. Et aller aux Beaux-Arts, c'était aussi, on parlait de micro-édition tout à l'heure, c'est aussi apprendre à faire les choses, trouver des nouvelles manières de faire les choses, inventer. Donc ça, c'était vraiment bien. Il y a quelque chose par rapport aux écoles d'art qui est assez super. En tout cas, quand on vient de lycée, l'éducation nationale, c'est que tout d'un coup, on nous demande qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et on développe des intérêts et puis des recherches qui font sens, qui sont pas quelque chose qui vient de l'extérieur.
Donc finalement, c'est aussi une façon d'apprendre à se connaître soi-même, parce que quand on te demande quels sont tes intérêts, tu dois un peu te recentrer, justement.
Oui, ça, je crois que ça bouscule assez fort pas mal de gens.
Et je vous ai pas demandé d'ailleurs pourquoi le nom Contrepente, d'où ça vient, quelle est l'histoire, enfin si on a eu derrière tout ça.
C'est une histoire de petit déjeuner. C'est une histoire de petit déjeuner où on n'arrivait pas, c'est dur de trouver un nom pour un endroit, surtout à 6. Et du coup, on s'est mis à chercher en buvant le café, en mangeant des tartines et à se dire tout un tas de mots absurdes. L'idée de pente nous fait vachement marrer dans le groupe. Enfin, il y a un peu une blague redondante par rapport à ça.
Oui, je me rappelle pourquoi.
Voilà. Okay. Et Plombières-les-Bains, c'est une ville qui a la spécificité d'être très en pente, parce que vraiment, c'est dans un creux entre. Enfin, c'est une petite vallée, quoi. Et c'est aussi ça qui fait tout son charme. Ça, il y a des escaliers partout. Enfin, des points de vue, des perspectives. Enfin, c'est vraiment très beau, Plombières-les-Bains, vraiment. Et du coup, à un moment, le mot contrepente est sorti comme ça dans des listes qu'on se jetait entre trois tartines, et c'est resté très fort, ça a été adopté instantanément.
À l'unanimité, ouais, tout de suite, ouais, c'était... Ouais. Voilà.
Ça a plu à tout le monde.
Comme il est, en tout cas, très joli nom, en tout cas, contrepente. On peut mettre plein de symboliques derrière. Marianne, en ce moment, tu as une actualité assez riche. Je suis un peu sur les réseaux sociaux. Alors, il y a un château lointain, c'est au Théâtre de la Manufacture. facture. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est pas au théâtre, c'est à la bibliothèque.
À la bibliothèque, ouais, autant
la,
pour moi.
Enfin, pardon, médiathèque. Médiathèque Manufacture. Alors, en fait, c'était à l'occasion de la fête de réouverture suite aux travaux qu'ils ont fait. Ils ont ouvert un nouvel étage. Donc, le 6 avril, il y avait un événement qui était prévu pour inaugurer le nouvel étage et la réouverture de la médiathèque. Donc, à cette occasion, voilà, il y avait un petit événement qui était prévu. Enfin, plutôt gros, d'ailleurs, pas seulement petit. Voilà, et donc, j'étais invitée à faire une installation participative. Et puis, j'avais envie de travailler sur l'imaginaire, parce que pour moi, la médiathèque, c'était le lieu où j'ai découvert mes premières histoires. D'ailleurs, j'étais voisine de la bibliothèque. Je me suis fait enfermer plusieurs fois. On croyait que j'avais fugué. On me cherchait partout. C'était horrible. et donc, oui.
Alerte enlèvement, tout ça, quoi. Ah, ça.
mais oui, j'ai vraiment grandi avec cet imaginaire, ces histoires-là, et j'avais envie de matérialiser un petit peu cet univers-là. Je me suis plongée dans des choses. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose qui était aussi imposant matériellement. Même il y avait un côté vraiment de prise de plaisir visuel, matériel. Parce que vraiment, avec tout ce côté concept, au bout d'un moment, j'étais rentrée dans limite dans de l'administratif, quoi. Donc ouais, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de faire quelque chose d'un peu abstrait, limite, et spontané. Et puis ça m'a reconnecté à des trucs qui m'avaient inspiré enfant. J'ai retrouvé un bouquin, c'était La Reine des Neiges, c'est un conte. Je l'ai recommandé, j'ai retrouvé l'édition originale, je l'ai recommandé sur Internet, j'ai retrouvé l'illustration que j'avais vue à 5 ans, hein, qui m'avait marqué, qui m'avait inspiré un bout de... Voilà, Miyazaki aussi avait des images du voyage de Chihiro qui m'a imprimé comme ça la rétine et qui se retrouve peut-être en partie là-dedans. Voilà, des choses...
Alors comment, qu'est-ce qu'on peut voir concrètement et puis quand, comment on peut aller visiter voir cette installation, pardon.
Elle est là. il faut aller à la médiathèque.
Elle est bien là, j'ai vu dans tes stories sur Instagram, elle
ouais,
est bien là.
Ouais, vous la raterez pas, franchement vous pouvez pas la rater, vous rentrez dans la médiathèque, elle est là, c'est grand, ça, voilà, c'est vraiment comme une espèce de château. Moi j'imaginais un château en ruine ou un château en cours de construction, quoi. Un château imaginaire qui synthétise un petit peu nos histoires. C'est toujours, on commence toutes les histoires par « Il était une fois dans un pays lointain ». C'est pratique que ce soit lointain, parce que du coup, on ne peut pas vérifier. on ne sait pas. Peut-être qu'il existe, peut-être il existe dans une autre dimension. En tout cas, là, il existe dans cette dimension-là, pour le moment.
Et c'est déjà pas mal. Donc, c'est aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Dans le hall directement, voilà. C'est un grand... Ça ressemble, en gros, pour vous le décrire, hein, si vous n'y allez pas, que vous n'avez pas Instagram, vous imaginez comme à moitié une cathédrale, à moitié un château. Vous prenez juste les arêtes en métal et puis vous remplissez ça avec du transparent bleu, rose, jaune, comme des vitraux. Sur lesquels les gens, ils ont collé des illustrations de leurs histoires préférées. Bon, je suis pas très satisfaite du système d'autocollants, mais je vais trouver quelque chose de mieux parce que peut-être possible qu'on représente ou qu'on garde exposé l'œuvre d'une manière un peu plus pérenne. Donc, on va trouver un système un petit peu plus sympathique, peut-être de la gravure.
C'est vrai qu'avec toutes ces couleurs là, il y a un côté vraiment vitre de cathédrale. Hein, donc ça, c'était quelque chose que tu avais déjà exploré ou cette installation là, donner l'occasion d'exprimer.
J'adore la transparence. Je suis fascinée par tout ce qui est transparent. Genre, quand je travaillais en restauration, quand je travaille en restauration, c'est toujours d'actualité, hein, pour payer le loyer de temps en temps, j'adore les glaçons. Genre, je suis trop heureuse parce qu'il y a une grosse machine à glaçons.
Je croyais que t'allais me sortir un plat.
Non.
Ceviche de. Non.
Pas du tout.
Non, les glaçons.
Les glaçons, ça me rend heureuse. Même mon projet Poésie Liquide, où il y a des cocktails, où basiquement on traduit de la poésie en cocktail, moi ce que je kiffe, c'est l'aspect visuel, quoi. Je regarde le verre, je le tourne dans tous les sens à la lumière, je suis heureuse.
C'est vrai qu'il y a un côté, alors je vais permettre un néologisme, Boris Vianesque dans ce projet-là, parce qu'il y a un côté pianoctel, mais en écriture, quoi. C'est-à-dire on transforme un texte en cocktail. Est-ce que ça aussi, c'est Boris Vian t'a inspiré ou pas du tout?
Pour moi, Boris Vian, c'est plus plus son travail d'écrivain qui m'inspire cette partie-là précise de l'écume des jours. Ouais, elle est assez cool. C'est vrai, ouais, il y a un côté surréaliste. Ouais, non, mais c'est vrai que surréalisme, ça m'inspire toujours un peu, quoi. Mais le processus de traduction, en fait, c'est quelque chose qui m'accompagne. Même là, Château Lointain, le côté participatif, c'est les gens racontent une histoire et en fait, une intelligence artificielle, donc là, c'est, en l'occurrence, c'est DALL-E.
DALL-E, bien sûr. Ouais.
Et la troisième version, là, qu'on a utilisée qu'en ligne, le traduit en image, génère une image d'après ce qu'il raconte. Et donc, cette image-là, elle va venir enrichir le vitrail. Et donc, il y a vraiment cette idée aussi un peu de cathédrale. Enfin, les vitraux, à la base, c'est vraiment l'idée de faire passer la lumière à travers une histoire, en fait, qui va guider notre spiritualité. Mais bon, là, c'est pas vraiment une spiritualité religieuse. C'est plus, voilà, qu'est-ce qui nous construit, en fait, en tant que personne, les récits qui nous marquent. En gros, voilà, toutes les images imaginaires croisés qui font nous un peu ce qu'on est dans le fond. Et je pense que ça a une influence de ce côté-là. Donc c'est l'idée de matérialiser des imaginaires, de traduire des choses voilà, d'un langage à l'autre, d'un langage visuel à un langage écrit, inversement.
Un langage culinaire, un langage
aussi.
Voilà. De cocktail. Mais ça me fait penser à une expérience que j'ai eue il y a un peu plus de 2 ans. J'ai eu la chance d'assister à un cours à l'université de Palo Alto. Et donc il y avait des étudiants qui présentaient leur travail et il y avait un peu de ça, hein. C'était notamment un étudiant qui avait écrit un poème et ce poème était transformé grâce à une intelligence artificielle en musique.
Ah, trop bien.
Et donc ça collait un peu les deux et puis même en dessin. Alors bah, là on était un peu avant l'avènement de ChatGPT et de DALL-E, tout ça. Ouais. Hein, donc pour moi c'était waouh. Et puis plus de 7-8 mois après, on a eu le gros tournant avec les intelligences artificielles. Maxime, alors toi t'es ce domaine du jeu vidéo, l'illustration, comment tu l'explores à travers ce collectif?
Moi, j'aimerais me servir particulièrement de ce lieu, en fait, en rapport aux jeux vidéo, comme un lieu de rencontre de gens du secteur qui pourraient être intéressés. J'ai une grande idée, serait de faire des séminaires comme ça sur une semaine où on pourrait discuter de questions, puis les développer ensemble, puis sortir des petits papiers comme ça un peu tous les ans. Donc ça, j'aimerais bien mettre ça en place d'ici quelques années, enfin quand ça sera prêt. Et pour l'illustration, je pense que ça va se recouper assez vite avec le travail de Mathilde et Simon sur des questions d'édition, puis de, enfin on va faire un peu des rebonds comme ça.
Et ça fait un bon lien, hein. Bon, t'es toujours bon en transition parce que le travail de Mathilde, c'est parfait. La malvenue, qu'est-ce que c'est?
Alors, La Malvenue, c'est un projet du collectif Palais Féral, qui est un des collectifs d'artistes hébergés par la Contrepente, qui est un projet dans lequel Simon et moi récoltons énormément de... Enfin, on ouvre des dossiers de recherche. Ça s'appelle le Bureau des Formules. Et on a tout un tas d'enquêtes en cours qu'on va venir enrichir avec des dessins, des articles de presse, des contes ou des fables qu'on retravaille, avec des faits divers, des schémas. Enfin, et donc c'est un peu une sorte d'enquête continue comme ça. Le lien à la micro-édition de ce projet-là, c'est que nos enquêtes, on les imprime au fur et à mesure sous forme de petits rouleaux. En fait, on utilise une imprimante thermique comme pour les tickets de caisse. Et on imprime des petits rouleaux qui sont un peu des résumés d'enquêtes et qu'on peut distribuer. Et c'est un peu des rouleaux voilà, qui prennent 2-3 minutes à lire et qu'on distribue assez abondamment autour de nous. On aime beaucoup produire ces petits objets-là. Et donc, La Malvenue, c'est un projet théâtral qui a été joué en octobre dernier à La Grange, une salle de spectacle à côté de Lausanne. Et c'est un projet théâtral qui puise tout son texte, en fait, dans ses petits rouleaux, dans le Bureau des Formules, dans ses recherches. Et donc, c'est un projet qui a été tourné comme une émission de radio dans une loge de ce théâtre. C'était rediffusé en direct dans le bar du théâtre. Et voilà, nous, on a lu des textes qu'on avait écrits par rapport à un possible réensauvagement de la ville. Des textes intégralement écrits par rapport à des faits divers qu'on a trouvés dans les journaux, qu'on aimait beaucoup.
Alors on va écouter un extrait, c'est Lyon.
Signalée dans un jardin des hauteurs de Lausanne, une lionne suscite un branle-bas de combat. Mauvais canular, la police alertée met sur pied sans attendre un dispositif de recherche. Cela passe notamment par la mise en circulation d'une mise en garde à la population. Si vous le voyez, attention à non pas courir, mais se mettre en sécurité. À surtout pas courir, mais bien alerter la police. Mais c'est aussi une mission en or pour l'hélicoptère Super Puma de l'armée, bien apte à passer au peigne fin le secteur possible de la fauve à la caméra thermique. Sans compter l'appui bienvenu d'un imposant effectif spécial aux côtés des gendarmes de base, la municipale, la brigade canine, la police de sûreté, la police faune nature ou garde faune, et enfin les équipiers du DAR, dont il nous faut dire deux mots. DAR, D-A-R-D, vaut pour détachement d'action rapide et de dissuasion. Son emblème, le scorpion, n'est pas fruit du hasard. Bien que petit, l'arachnide est vif et redoutable, en attaque comme en défense. Il sait en outre aisément se dissimuler, ce qui en fait un totem idéal pour l'unité formée exprès contre les terroristes et tout type de cas délicats. Braquage, otage, malfaiteur retranché, protection rapprochée. Le commando rassure sans doute le gros des unités armées par sa simple présence et fait par ailleurs bon complément au pilotage du Super Puma. Sans oublier l'intervention des services de la faune et des affaires vétérinaires armés de gros fusils. Le voisinage est tombé des nues, tandis qu'au loin, dans la forêt du Flon, la battue bat son plein. Par précaution et pour leur sécurité, les élèves du collège du Bois-Murat ont été privés de cours de récré. Relevés en bordure d'une zone arborée, des empreintes sont portées au vétérinaire cantonal. L'option fauve est invalidée au profit d'un gros chien beige, hypothèse vérifiée plus tard, qui aurait échappé à la vigilance de son possesseur et maître et serait retourné pour un court instant à l'état sauvage. Ce ne serait donc sans doute pas un chien errant. L'enquête se poursuit pour déterminer sa race avec Amicus, la banque de données nationale sur les canidés, mais aussi l'aide avisée de spécialistes. Ces derniers confirment le nom des races qui pourraient avoir cette allure lionne, labrador, léon berger, berger d'Anatolie ou encore lévrier irlandais. Aucune information quant aux caniches. Pour protéger la sphère privée, nul n'en dit plus sur la bête ou son possesseur. Affaire classée donc, déclare le vétérinaire cantonal, qui rappelle au maître son devoir de maîtrise. Le zoo de Servion, quant à lui, a confirmé que son couple de lions est bel et bien toujours là.
On vient d'écouter donc Lyon, extrait de La Malvenue, avec la voix de Simon Falquet, c'est bien ça hein?
Exactement, oui.
D'accord, donc alors il y a ce projet-là, il y a aussi le projet Laugh in the Dark avec Maxime cette fois-ci.
Oui. Alors Laugh in the Dark, peut-être tu veux en parler
Non, je t'en prie.
Alors, Laugh in the Dark, c'est une pièce que je suis en train de monter pour mon examen de sortie d'école à la manufacture à Lausanne, donc pas la manufacture de Nancy, une autre. Et donc, moi je suis en train d'écrire cette pièce-là avec Simon qu'on vient d'entendre et c'est un seul en scène. Et c'est Maxime qui portera donc au plateau ce texte-là.
Alors pour Maxime, c'est une première expérience en tant que comédien.
Oui.
Alors qu'est-ce que ça fait?
C'est assez angoissant, c'est stimulant quoi. Ouais. Oui. On verra bien, mais je suis prof, donc c'est un peu mon métier de parler de choses, mais peut-être que là les gens m'écouteront. Il va falloir dealer avec ça.
Alors on va s'octroyer une pause musicale avec Jessie Reyes qui elle n'explore pas le laugh in the dark mais plutôt le love in the dark.
We're only humans floating on a rock, but I think that you are made of stardust. Unconditional, you put up with so much, I could never repay the way you love. Back to the sky, we all have to fly back home, back home. The sweetest goodbyes are never with smiles at all. But when our lives are running out and your heartbeat is taking the drug, could you try to look around? I'll be there to pull you back up. I'll be around you. I'm nothing without you. I won't leave you alone. Cause when the stars are falling down, there's love in the dark.
always love in the dark. I'd do anything to relive our memories and listen to your songs play in my head. 'Cause I hate the silence, it's the only thing I get. I wish I could hear your voice once again in your heartbeat. All of the small things, oh, 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 oh. The sweetest goodbyes are never with smiles.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et on est toujours en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter le magnifique morceau de l'artiste colombiano-américaine Jessie Reyes, Love in the Dark, extrait de son album éponyme, donc Love in the Dark. Et on est avec Marianne Thibault, on est avec Maxime Magnin et Mathilde Gérard, qui sont artistes, qui nous parlent de contrebande, de contrebande, attention.
C'est pas très loin.
Et de la micro-édition notamment. Ouais. Alors pour conclure cette émission, comment on peut vous retrouver, comment on peut aller regarder ce que vous faites, vous rencontrer. On commence par toi, Marianne.
Principalement, le média de diffusion, c'est Instagram. Instagram, du coup, selon nos pratiques, moi, en tout cas, je l'utilise aussi directement pour publier, entre guillemets, ce que je fais. Donc,
quel est le ton nom sur Instagram?
C'est Mashka Tango. J'ai un compte dédié à mes pratiques d'écriture. Donc, c'est une espèce de laboratoire où je publie régulièrement des très courts textes que je lis aussi dans des scènes ouvertes auxquelles je participe, Paris, Strasbourg, Bruxelles. Donc, il y a etc. lecture à Bruxelles. À Paris, il y a Le Bœuf Monstre, Flower Bed, La Textape, et puis il y a l'Oré 85, bien sûr, qui propose aussi à Strasbourg des performances dans lesquelles on peut retrouver le collectif de Mathilde. Donc que des lieux qui permettent aussi des pratiques un petit peu à mi-chemin entre performance et lecture de texte et toutes sortes d'expérimentations qui sont super riches. Et Instagram reste le média principal pour la communication, pour les infos. Et dans mon cas, ça m'a aussi influencé au niveau mise en page, c'est-à-dire que graphiquement, du coup, je me suis adaptée aussi au format, c'est ça. Et puis ça incite un petit peu à une espèce de cohérence visuelle. C'est qu'il y a pas mal d'autres artistes, Victor Amonic, dont je voulais parler un petit peu plus tôt, je l'ai connu via Instagram et il publie régulièrement aussi des choses qui sont des extraits en fait, qui sont pas la totalité de ce qu'il fait, il a sa propre, sa petite maison d'édition en collective aussi où il publie ses zines. Et donc voilà, je tenais à souligner un peu ce travail-là qui a l'air un peu underground comme ça. On n'est pas forcément dans des événements très officiels. Mmh. Participe pas mal à des festivals aussi. Mmh. Donc, bientôt, il y a ma collègue Angèle Douche et Ami Waldo aussi qui vont participer au Queer Zine Festival à Paris.
J'adore son nom, Angèle Douche.
En fait, elle adore les jeux de mots. Elle est pleine d'humour et toutes ses éditions, c'est vraiment des petits jeux comme ça. Mmh. Et, voilà, Athens Art Brookfair aussi, j'essaie de participer.
Donc, réseaux sociaux, festivals.
Réseaux sociaux. Il y a des librairies aussi comme Le Monte en l'air ou la librairie Sans Titre qui font énormément qui ont vraiment une espèce de gisement comme ça de zine. Et la petite Fadzidothèque à Bruxelles qui est une espèce de centre d'archives. Très très impressionnant qui organise un festival tous les ans de micro-édition aussi, de zine. J'ai déposé plusieurs exemplaires de choses que je fais et ils ont même des exemplaires d'édition qui ont été faites par des poilus dans les tranchées.
Waouh. Voilà. Alors en tout cas toi principalement c'est sur Mashkatango, donc
MASHKATANGO,
voilà, tout attaché. Ouais. Qu'on retrouve ton travail, Mathilde.
Pas mal les réseaux aussi. Pour Palais Féral, donc ce collectif d'écriture, on peut nous trouver sur Palais Féral, sur Instagram. Mm-hmm. Voilà. Pour Contrepente, c'est la même chose.
Donc on tape juste Contrepente sur Instagram.
Exactement.
Et puis on vous trouve
On nous trouve assez facilement, ouais. Pour Contrepente, comme on aime beaucoup le papier, je me permets de le dire, on peut aussi nous écrire tout simplement.
À quelle adresse alors ?
L'adresse c'est La Contrepente, 39 avenue de Franche-Comté, 88 340, le Val d'Ajol. Voilà, toute lettre est toujours bienvenue.
Très bien. Et enfin, comment on peut voir ou te contacter, Maxime ?
Eh ben, moi c'est pareil. Hein. Instagram, donc le nom c'est Chance Jardinier. Mmh. Et voilà.
Très bien. Eh bien, je vous remercie tous les trois d'être venus aujourd'hui pour parler de vos pratiques, pour parler de Contrepente, pour parler aussi de la micro-édition. Et puis, j'espère que nos auditeurs, enfin, je suis sûr qu'ils ont appris plein de choses, qu'ils ont appris aussi à appréhender le travail artistique, ce qui se cache derrière aussi, ce qui n'est pas toujours visible et qui est pourtant si important. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci à toi.
Merci aux auditeurs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure dans Dialectique. Au revoir.
Cinnamon, where you gonna run to?